Europe 1, la Libre Antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée, chers amis, et que maintenant vous vous préparez à passer ces presque deux heures en notre compagnie, puisque nous sommes ensemble jusqu'à une heure du matin, et que comme vous le savez, cette Libre Antenne, c'est votre espace de parole. Pour nous joindre, vous composez le 39-21. Pour nous écrire, vous écrivez au 7-39-21. Suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, et puis vous écrivez vos mails à libreantenne@europe1.fr et sur notre page Facebook de la Libre Antenne, où vous pouvez adresser vos messages en privé à Florian et à Julia. Voilà, votre Libre Antenne du jeudi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Monia au 39-21. Bonsoir Monia.
Bonsoir.
Bonsoir. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Monia?
Alors, je m'appelle Monia Idji et j'ai 35 ans.
D'accord.
Et je vous appelle de Lyon.
D'accord. On va parler de votre petit garçon ce soir.
Oui, exactement. Mon petit garçon s'appelle Issa. Il a 10 ans cette année, il va avoir 10 ans cette année. Et il est né en 2013. C'est un grand prémat de 560 grammes.
Oui.
Et il a un trouble du spectre autistique.
D'accord. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Le petit garçon et l'éléphant.
Exactement.
Autisme, une enfance extraordinaire aux éditions La boîte à Pandore. Dans laquelle vous racontez votre propre histoire, donc celle d'une mère qui a mis au monde deux bébés nés prématurés. L'un, Isaac, ne va pas survivre, et le deuxième, Issa, est donc porteur de ce handicap puisqu'il est autiste. Racontez-moi un peu ce que vous racontez dans ce livre, Monia.
Alors, c'est un témoignage de vie où je raconte mon histoire de mère et je mets en lumière la difficulté de mon petit garçon au sein de la société, de l'école, de la famille, à vivre et à exister pleinement en tant que petit garçon. Mmh. Je raconte la particularité d'un grand préma, dans un premier temps, un enfant de 560 grammes qui arrive relativement tôt, et la complexité de cette prématurité, où Issa a passé plus de 9 mois en service de réanimation. En général, la grande prématurité amène à un parcours tel un funambule, où on est vraiment sur le fil de la vie, et de jour en jour, c'est des jours gagnés. Et en sortant de ces 9 mois de réanimation, Issa est sorti avec une bronchodysplasie pulmonaire, donc une insuffisance respiratoire assez importante. Et il était trachéotomisé avec un respirateur. Et rapidement, je me suis retrouvée avec un petit garçon trachéotomisé, des respirateurs dans ma maison, des bouteilles d'oxygène où l'hôpital était parmi nous. Et je pensais que les choses allaient avec les années se passer et du moins en tout cas s'améliorer. Et très rapidement, les traits de l'autisme sont apparus dans notre quotidien.
Quels sont ces traits qui apparaissent en premier?
Alors, il faut savoir que j'ai commencé à entendre la voix d'Issa à partir de 18 mois.
Oui.
Il était impacté par rapport à sa traque. Et très rapidement, c'est plutôt les bourdonnements d'un respirateur, donc de ne pas entendre les pleurs, les rires d'un bébé. Et donc, c'était difficile de pouvoir poser un diagnostic parce qu'il était impacté par son souffle et sa respiration. Mais les premiers traits ont été une difficulté au niveau de sa communication, de sa compréhension,
oui,
de son langage. Et rapidement, quand il a été décanulé et que sevré de ses appareillages, parce que il grandissait et sa capacité pulmonaire s'améliorait, c'est les interactions sociales. c'est voilà, la compréhension de ses émotions et puis surtout la relation avec les autres. Où je n'ai pas entendu rapidement le mot maman que j'espérais, mais plutôt voilà, des cris, des difficultés de communication sur ses colères, des gestions émotionnelles très complexes. Et c'est ce qui m'a rapidement interpellée aux alentours d'un an à 18 mois, où je me voyais bien que mon petit garçon avait d'autres difficultés que sa prématurité.
D'accord. Comment est-ce que vous réagissez quand là apparaissent les premiers symptômes
Alors,
parce que vous ne pensez pas à l'autisme tout de suite, je suppose.
Non, je ne pensais pas à l'autisme tout de suite. J'ai été professionnelle de santé dans un hôpital militaire. J'ai eu travaillé en réanimation avant la naissance de mes enfants. Et je connaissais le monde médical, mais c'est vrai que l'autisme, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et ça m'a tout de suite interpellée, du moins ces difficultés relationnelles. Et Issa a été bien suivi. Il avait toute une équipe qui l'entourait en vue de sa prématurité, des pneumologues, des neurologues, des réanimateurs. On pouvait voir entre 4 à 5 médecins par mois, et personne n'avait posé le diagnostic de l'autisme parce que voilà, c'était alors complexe de pouvoir poser ce diagnostic, et on me demandait de patienter en vue de sa prématurité, de cette immaturité qu'il avait eue en lien avec sa naissance, qu'il fallait patienter. Mais c'est vrai qu'à 18 mois, à l'aube de ses 2 ans, on n'a qu'une envie, c'est d'entendre le moment maman, oui. De savoir s'il a faim, de savoir s'il a mal, de savoir s'il a peur, ce qu'il a envie de manger. Et c'est vrai qu'aucun outil de communication n'était posé. Et je crois qu'avant même le diagnostic ou avant même d'étiqueter mon enfant d'une quelque pathologie ou d'un handicap, j'avais juste envie d'avoir des outils pour communiquer avec lui. Je crois que comme n'importe quelle mère, juste rentrer en contact avec mon enfant.
D'accord. Et votre mari, en fait, réagissait comment, lui? Parce que je sais que l'accueil des hommes est parfois différent.
Oui, l'accueil des hommes est parfois différent. Alors, c'est vrai que nous avons été baignés très rapidement dans le monde de l'hôpital rapidement, on a été très, très soudés par rapport à ces différentes hospitalisations et chirurgies qu'il a eues. Mais quand les crises, les gestions émotionnelles, les troubles du comportement sont arrivés très forts, évidemment que ça a été compliqué. Et puis, on se retrouve dans une position d'aidant au quotidien.
Oui.
Où les réveils sont très matinales, les couchers sont très tard, et évidemment qu'il y a souvent des deux parents qui restent pour veiller sur l'enfant, et puis l'autre qui va s'isoler, du moins c'est souvent commun, qui va s'isoler dans une spirale professionnelle pour ne pas voir la difficulté de son enfant. Donc oui, c'est compliqué.
Comment est-ce que vous décidez à vous attaquer au problème, en fait? Quelle est la première chose à laquelle on pense, en fait? Est-ce qu'on se tourne tout de suite vers la médecine?
Oui.
Parce que je suppose que ça met un certain temps, en plus, pour avoir des rendez-vous.
Ça met un certain temps, et il y a une errance médicale qui s'installe rapidement, où on questionne énormément les médecins, les pédiatres, les réanimateurs, les néonatologues, et personne ne nous met sur un chemin, en tout cas où nous donne des solutions. Et voilà, on se documente, on essaie de chercher. Et vraiment, à partir de 2 ans et demi, quand on commence à me dire que, évidemment, que ça va être compliqué, et qu'on commence à me donner des traitements, c'est-à-dire où je sors d'un hôpital neurologique et je ressors avec une ordonnance aussi longue que mon bras pour un petit garçon de 2 ans et demi. Pour canaliser ses émotions, ses colères. Oui, j'ai eu travaillé en réanimation et je sais combien certains médicaments peuvent être dangereux pour certains enfants, et on n'a pas forcément envie d'assommer son enfant pour l'apaiser dans ses émotions. On a juste envie de le comprendre. Donc j'ai commencé dans un premier temps à faire le tour des neuropédopsies de la région, d'anciens collègues, à me documenter. Et puis, je me suis rendue voilà, rapidement compte que ce que l'on pouvait m'offrir, c'était des temps de répit. Voilà, des institutions, des IME, voilà, des crèches adaptées qui sont très bien,
oui.
Mais pour que je puisse souffler. Mais je n'avais pas forcément envie d'une voie de garage ou d'un temps pour poser mon enfant. Et j'avais envie de trouver des solutions, envie de rentrer en communication avec ce petit garçon. À partir de 2 ans, j'ai commencé à aller voir ce que les autres pays pouvaient proposer. Et donc, on a commencé à voter. À partir en Suisse dans un premier temps, voir d'autres professionnels, voir d'autres centres, comment
oui,
on rentre
oui,
en lien avec son enfant. Et je suis très bavarde. Je n'avais qu'une envie, c'est de pouvoir parler avec mon fils. Et il m'était impensable que mon petit garçon, en vue de tout ce qu'il avait pu vivre, quand on arrive voilà, à 560 grammes, ce qui est à peine le poids de, oui, d'un demi-kilo de sucre, et qu'on le voit commencer à faire ses premiers pas, ses premiers rires, et vouloir vivre à tout prix, exister pleinement, même si c'est très maladroitement. On n'a qu'une envie, c'est de lui donner une place juste et de pouvoir rentrer dans son monde. Donc, j'ai commencé dans un premier temps en Suisse, voilà, à rencontrer un neuroplasticien, voilà, où on a pu me guider sur des, voilà, des thérapies comportementales, des formations, pour pouvoir l'aider en tout cas à poser certains outils à la maison.
Oui.
Et ensuite, en revenant sur le territoire français, j'avais essayé de trouver voilà, des orthophonistes, des éducateurs spécialisés, pour des psychomotes, pour pouvoir l'aider à travailler à la maison et poser ses premiers mots.
Et bon, je suppose que ce petit garçon est très courageux. Est-ce que vous obtenez de bons résultats qui vous encouragent dès le début ?
Oui, dès le début, dès le départ, je commence à entendre les premiers mots de maman, chocolat et mental, en Suisse. Et je me dis que oui, ça y est, j'arrive à tisser quelque chose. En tout cas, à avoir déjà un premier échange, un premier regard. Et je continue sur d'autres méthodes, d'autres méthodes d'accompagnement. En Belgique aussi, notamment, que je ramène sur le territoire français, où je trouve d'autres professionnels qui sont aussi formés à ce type de méthodes, ABA, TEACH, PEX, des méthodes qui sont, voilà, où certains éducateurs orthophonistes peuvent associer ce type de méthode pour prendre en charge convenablement les enfants avec un trouble du spectre autistique. Et je monte tout autour de lui une vraie équipe, parce que rapidement, à 2 ans, on m'explique que les délais pour que ça puisse être diagnostiqué sont très longs. Et dans notre région, les délais étaient à peu près de 2 à 3 ans. Il m'était impensable de pouvoir attendre une validation de son autisme avant de commencer un chemin et une rééducation. Donc je mets en place rapidement voilà, toute une équipe de professionnels que je vais faire former et on monte voilà un petit protocole à la maison où chaque jour, chaque rythme, chaque matinée, chaque après-midi sont rythmés avec le va-et-vient des professionnels de santé.
Mmh.
Et très rapidement, on obtient des résultats où ça commence à se poser, à rentrer en interaction, à échanger, à pouvoir dire les jours de la semaine, à se positionner, même si ces troubles du comportement sont très très lourds et sont très forts, mais à rentrer progressivement en interaction. Et puis vient les 3 ans où il fait sa première entrée en petite section maternelle. Et là, moi qui avais préparé l'année quelque part en amont pour qu'il puisse au moins s'exprimer et poser certaines choses et avoir au moins quelques codes, je me rends compte que oui, c'est beaucoup plus difficile. Et l'école, malheureusement, n'est pas forcément adaptée à ces enfants. Et là, oui, on a l'handicap qui nous est renvoyé en pleine en figure. Donc là, ça a été une vraie difficulté. Moi qui me réjouissais de pouvoir l'emmener à l'école et de me dire ça y est, enfin, on a passé le cap de la traque, du respirateur, de ses petits problèmes de santé. On s'est positionné sur quelques mots. Il arrive à rentrer dans des codes. Et là, oui, c'était une vraie douche froide parce que le système éducatif n'est pas forcément dans l'inclusion de ses enfants. où je me rends compte que voilà, les dossiers MDPH, les AVS, les AESH, pardon, les aides et les accompagnements qui sont destinés à ces enfants sont peu adaptés et souvent très rares.
Oui.
Voilà.
Je vois que vous êtes allé en Belgique, que vous êtes allé en Suisse.
Oui.
Qu'est-ce que vous y êtes allé faire, dites-moi, Monia?
Alors, je suis allée voir des centres, principalement des centres ou des lieux de répit et d'accompagnement d'enfants et de parents. Dans un premier temps, j'ai rencontré un neuropsychologue, pour faire de l'audio-psychophonologie, voilà, pour essayer de créer de la remédiation cognitive pour emmener ça à une rééducation de sa boucle audio-vocale. Voilà, et très rapidement, sur 15 jours, j'ai pu voir que voilà, ce type de méthode avait pu marcher, du moins avait marché sur mon petit garçon, du neurofeedback aussi, des méthodes comportementales. Principalement, c'est ce que je suis allée faire, voir en tout cas, et ces petits séjours m'ont permis de pouvoir mettre en place ce type de rééducation avec Issa.
Pourquoi aller en Suisse et en Belgique ? Parce que ça n'existe pas en France ?
Parce que ça n'existe pas en France. Parce que malheureusement, on ne me proposait pas ce genre de méthode ou simplement on ne me proposait pas ce genre de prise en charge. Très rapidement, on m'a proposé des temps des services, des hôpitaux de jour, voilà, des médicaments, surtout des médicaments, mais peu et pas de thérapie comportementale.
Oui, parce que je vois qu'en Belgique, vous décrochez donc une consultation en psychophonologie et pour la première fois, Issa réussit à faire une sieste.
Sieste, exactement.
Alors qu'en France, on ne vous proposait que des médicaments.
Alors qu'en France, j'étais allée dans un service de neuropsychologie et j'avais rencontré un neuropédopsychiatre qui avait une aura assez importante sur notre région. Et la première chose qu'il m'a prescrit, c'est du risperdal. Et voilà. Et c'était, pour moi, je ne souhaitais pas, en tout cas, donner ce type de médicament à mon fils.
Vous avez bien fait, parce qu'en plus, on peut considérer, et c'est très curieux d'ailleurs qu'on donne ce type de médicament, parce que même si je pense que ces médicaments sont étudiés pour... Quelque part, peut-être stimuler ou calmer, je ne sais pas.
Mais, pour réduire les troubles du comportement.
Pour réduire les troubles du comportement. Mais on s'adresse quand même à des enfants donc, qui sont en plein développement. Et le cerveau est en plein développement. Donc, je trouve ça très dangereux, en fait.
Mmh.
Et est-ce que finalement, ça n'est pas, en fait, la solution un peu de misère que de donner des médicaments, parce qu'ici, on est en retard sur toutes ces histoires.
Ah oui, complètement. Je me suis rendu compte qu'il y avait 40 ans de retard dans la prise en charge de l'autisme en France. En fait, personne ne pouvait me dire ce que mon fils avait. Les délais d'attente pour avoir ne serait-ce qu'un diagnostic étaient très longs. Les professionnels qui étaient formés, ne serait-ce qu'une orthophoniste, une psychomote, une ergothérapeute, étaient très rares. Nous, à l'époque, habitions dans l'Ouest lyonnais,
et dans
un petit village. Évidemment, personne, aucune orthophoniste à la ronde ne prenait en charge les enfants avec un trouble du spectre autistique. Le centre médico-psychologique de jour était à plus de 30 km de chez nous. Et puis l'école de village, Issa était vite étiquetée et c'était le loup blanc du village. Tout le monde le connaissait en vue de son comportement, de son agitation. Et très vite, nous avons été, en tout cas, Issa a été très vite étiquetée et on s'est senti isolé, complètement isolé. Jusqu'à un matin où, sur une visite de routine chez le pédiatre pour des vaccins, où je m'effondre complètement en disant « c'est beaucoup trop dur, c'est difficile, j'arrive pas à trouver de solution ». Issa avait à peine 2 ans et demi, il avait retourné 2 ans, il avait retourné à la salle d'attente. Il était dans une agitation et dans une joie, dans une bulle tout simplement.
Oui.
Tout le monde l'avait entendu. Et là, je me souviens de cette médecin qui m'avait dit « oui, je sais que c'est dur, je comprends très bien la façon dont... ça doit vous épuiser jour comme de nuit. Mais voilà, elle avait eu vent qu'à l'école, c'était très difficile aussi. Elle m'avait dit, vous savez, ici, c'est un petit village et les gens peuvent être méchants. Je vous invite à, voilà, à partir de ce village, aller dans une grande ville, aller voir voilà, peut-être des professionnels plus adaptés, une école plus adaptée pour Issa. Et là, oui, en fait, je m'étais rendu compte que l'handicap n'avait pas sa place dans ce village. Et ça, c'est difficile.
Oui, oui.
C'est difficile.
C'est difficile d'admettre que finalement, on va rejeter votre enfant. On va
complètement
pas...
rejeter.
Oui. Et ça, c'est...
Complètement rejeté. Exclu. Ouais. Exclu du système. Exclu des bacs à sable, des jardins d'enfants, des bibliothèques, des centres aérés, de l'école. Et on se retrouve vite isolé socialement. Isolé des autres face à un enfant qu'on ne comprend pas forcément. Et du coup, pour moi, ça a été juste une volonté, une envie, en fait, de rentrer déjà en lien avec lui pour ensuite l'emmener à exister pleinement avec les autres. Voilà, c'est ce qui m'a amené par la suite à partir, à lui trouver une place plus juste.
Très bien. Aujourd'hui, vous êtes toujours avec votre mari ou comme 84%
non.
des couples, l'homme s'en va, en fait hein.
Oui, oh oui. Je pense que voilà, la vie fait qu'on finit par, voilà, par prendre des chemins complètement différents. Voilà, on sait que de tous ses parents, bien souvent, oui, les couples... finissent par se séparer parce que c'est trop difficile, parce que c'est beaucoup trop dur. Et puis, il faut savoir qu'en France, il y a 11 millions d'aidants. Un aidant, c'est quelqu'un qui va aider au quotidien une personne, un membre de sa famille, impacté par une maladie, une fragilité ou un handicap. Et de ces 11 millions d'aidants, 72% sont des femmes, des mères de famille, des tantes, des sœurs qui vont accompagner une personne ou un membre de leur famille. Et quand on est impacté par l'handicap de notre enfant, oui, la plupart du temps, ce sont les mères qui prennent l'enfant et sa difficulté à bras-le-corps et qui sont souvent seules face à cette difficulté.
Mmh. Évidemment,
il y a des hommes voilà, qui peuvent relever le défi, mmh. Mais je crois qu'ils sont rares.
On va marquer une pause, Monia, si vous voulez bien, et on se retrouve dans quelques secondes.
Je vous remercie.